L'esprit du rivage, légende de la mer, par Pierre Jacques Elias. Deuxième cassette, deuxième face, page 94. Suite et fin de l'histoire du pêcheur Nona. La pauvre femme éclata en sanglots et se mit à répandre des larmes amères sur ses vieilles mains. « Hélas, dit-elle, il est vrai que je ne suis pas une mère avare ni indifférente, mais dites-lui ceci. Quand il a fallu l'habiller pour le cercueil, j'étais si assommée de douleur que je ne savais plus ce que je faisais. J'ai tiré de l'armoire les vieux vêtements que petit Joseph mettait pour la moisson, au lieu de présenter ses habits du dimanche à ceux qui faisaient sa toilette. Personne n'a soufflé mot ni demandé davantage. Moi, j'étais comme aveugle. Voilà comment c'est arrivé. Je le jure. Écoutez, je vais vous remplir un sac de chemise, de gilet, de braies, de veste, si vous pouvez l'emporter si loin sur votre dos. J'en viendrai à bout. Serait-il aussi lourd que de plomb? Le poids, ce n'est rien pour les âmes du paradis, répondit Nona. Petit Joseph fera un joli pharo quand nous irons tous les deux au pardon là-bas comme deux frères.
Des pardons? Y a-t-il encore des pardons au paradis?
Bien sûr. Seulement, au lieu d'avoir des statues de pierre ou de bois dans les églises, nous avons les saints eux-mêmes devant nous. Et quand le pardon est fini, nous allons manger du pain doux et boire un coup de cidre.
Mon Dieu béni! Et comment donc fait petit Joseph pour tenir son rang? Attendez, voici 10 écus pour lui. Quand ils seront dépensés, revenez en chercher d'autres. Et voilà comment, bonnes gens, le pêcheur Nona s'enfuit vers la côte avec 10 écus d'argent dans sa ceinture, 10 livres de pain noir, 1 pièce de lard salé, un sac rempli de vêtements chauds et un autre sac, invisible, rempli de bénédictions. Autrement, il avait le cœur chargé de honte, mais cette honte se digérait à mesure que le pauvre homme pensait à ses enfants et à sa femme qui pourraient conserver leur vie aux dépens d'un mort qui n'avait plus besoin de rien. Quand la mère de petit Joseph raconta à son mari ce qui s'était passé pendant qu'il était au champ, l'homme fut d'abord tenté de se mettre en colère et de lâcher les chiens aux trousses du voleur. Mais sa femme était si heureuse et si apaisée de croire qu'il ne manquait plus rien à son garçon au paradis que le père n'eut pas le courage de lui enlever ses illusions. Plus tard, le vieillard à la pipe révéla comment il avait rencontré le pêcheur Saint-Pierre lui-même. Et Saint-Pierre lui avait demandé le plus court chemin pour aller à Kerstribil. Sûrement le portier du paradis était descendu pour apporter quelques secours aux pêcheurs de Pinmar, ses filleuls. Et en vérité, pierre ou pas pierre, c'est ce qu'il avait fait. Page 97, l'homme à la barque. Comment est mort l'homme à la barque? Il n'y a pas beaucoup de gens qui seraient capables de vous le conter. Son histoire est le dernier cadeau que j'ai reçu du cantonnier qu'on appelait chez nous l'homme de Tréguennec, T-R-E-G-U-E-2-N-E-C, avant qu'il ne prît sa retraite dans son pays. Et son pays est à 2 lieues du mien, 8 kilomètres, ce qui faisait pour moi un exceptionnel voyage il y a 30 ans. Quand je voulus le revoir, on l'avait déjà porté en terre, lui et sa mémoire. C'est pourquoi il ne faut pas m'en vouloir s'il manque une chose ou une autre dans mon compte. Je me rappelle que l'homme de Tréguennec lui-même dut fouiller dans sa tête pendant une soirée entière sans desserrer les dents avant de rassembler sous sa langue assez de mots pour ressusciter l'homme à la barque de la façon juste et convenable qui est due au trépassé de bonne aloi. C'était d'autant plus difficile que les anciennes mœurs des gens de la côte n'étaient plus très bien comprises par leurs descendants. Écoutez plutôt. L'homme à la barque avait sans doute un nom qui lui venait de son père, à moins que son père lui-même ne se fût appelé l'homme à la barque.
Un nom, c'est peu de chose, puisque le moindre roquet a le sien. Un nom, c'est bon pour tromper sur la personne, puisque le roux, quelquefois, est aussi noir que la suie, tandis que le long est plus courteau qu'une betterave en année sèche. Un nom ne vaut que pour l'ancêtre qui l'a mérité en son temps, et n'est pas front de fer ou cœur de lion qui veut. C'est pourquoi, la possession de la terre ayant fait la noblesse, c'est le nom de la terre qui se transmet le mieux, parce que c'est la terre qui importe. Le paysan lui-même prend le nom de sa maigre ferme plus volontiers que celui de sa famille, de même que le roi de France n'aime pas beaucoup à être appelé Capet. Nous n'avons donc aucun besoin de savoir comment était désigné l'homme à la barque sur les papiers. Il était maître d'une barque, cette barque était son fief, et le reste n'a aucun intérêt, comme vous allez le comprendre. En ce temps-là, dit-on, il ne restait plus qu'une barque entre Penhors, P-E-N-H-O-R-S, et la Torche, T-O-R-C-H-E, et cette barque était la sienne. Ne me demandez pas comment avaient disparu les autres. Le fond de la mer doit en savoir quelque chose. L'homme à la barque pêchait tout seul dans la baie, à l'écart des flottilles de Pinmar ou d'Audierne, P-E-N-M-A-R-C apostrophe H, et Audierne, A-U-D-I-E-R-N-E. Ce n'était pas un homme sauvage, mais il avait sa tête à lui, et personne n'a jamais réussi à savoir ce qui se passait dans cette tête-là. Personne et surtout pas sa femme, une noiraude taciturne qui écorchait deux ou trois chants pelés sur la palue, derrière le cordon de galets sonores, pour avoir quelques pommes de terre à mettre autour de son poisson. Lui ne vivait que pour la mer et n'avait de soins que pour sa barque. Jamais ses mains ne s'occupèrent d'autre chose que du mât, de la voile et de la coque. Peut-être même n'avait-il aucun souci de la pêche, car il lui arrivait assez souvent de laisser ses filets au sec, et ces jours-là, les pommes de terre devaient se passer de poissons. Au reste, la part de sa femme et la sienne étaient si bien séparées que l'homme à la barque n'aurait pas daigné donner un coup de bêche ou aller autour de la vache dans les années grasses où il y en avait une dans l'étable. La femme, de son côté, ne portait jamais ses pieds nus plus bas que la ligne de Goémon qui marquait la limite de la haute mer, son mari lui ayant déclaré, une fois pour toutes, qu'un marin de bonne race devait parvenir jusque-là par ses propres forces avant de demander l'aide des paysans. Telle était la coutume des anciens. Et c'est pour respecter cette coutume que mourut l'homme à la barque, devenu déjà vieux et plus intraitable que jamais. Une nuit de septembre, un grand navire s'en vint donner toute voile dehors sur les rochers au large de Pinmar. Le vent était si fort que les huniers et les perroquets furent arrachés et emportés à plus d'une lieue dans les terres où les paysans s'en firent de bien rudes chemises. L'homme battait la côte comme il faisait à chaque fois que se levait la tempête. Avec mille peines, il parvint à pousser sa barque dans les vagues. Le premier, il atteignit le navire démantelé. Il lutta toute la nuit pour sauver les âmes en perdition. Quand parut l'aube, après six va-et-vient, il avait ramené 17 naufragés au port de Saint-Guénolé. Sans dire mot, il reprit la mer et mit le cap sur sa maison dont le pignon blanchi luisait sur la palue. Quand la barque s'échoua sur la grève, il s'évanouit de fatigue mortelle. C'était marée basse. Le flux ranima le pauvre bougre. Il sortit de sa barque et se traîna sur les genoux vers le cordon de galets. Mais il ne trouvait plus sa respiration et la mer gagnait sur lui de plus en plus forte. Là-bas, derrière la ligne de Goémon, sa femme l'attendait, raide debout, tricotant un bas de laine. Il fallait qu'il arrivât par ses propres forces, mais les vagues maintenant lui crevaient sur les épaules, le renversant à chaque fois. Il eut encore le temps de voir sa barque folle passer devant lui sans dire adieu. Il entendit le bruit que fit la quille en heurtant le dernier rocher. Alors il se laissa aller. Quand il fut avalé par la mer à 30 pas devant elle, la tricoteuse ramassa son ouvrage et s'assit sur les galets pour chanter le Libera, le chant des morts. Plus tard, la veuve éleva de ses mains une soue S.O.U.E. pour un petit cochon. Elle voulait avoir un peu de lard salé pour engraisser ses pommes de terre. Et c'est la barque qui servit de toit pour la soue. Dès lors, la petite ferme fut appelée la barque de l'homme, et ce fut toute la différence. Page 101, la barque des morts. Etranenez hagaras eman bered arvazet. Debout sur l'étrave du ras de Saint, quand on regarde le bec du vent, V.A.N., vers le nord, on voit la mer pousser des rouleaux puissants sur une grève entre les deux caps. C'est la grève des trépassés, l'abominable baie, un des lieux de rendez-vous des noyés qui attendent l'embarquement pour le séjour de l'autre monde. Et pourtant, les pêcheurs de Clédin, C.L.E., accent aigu D.E.N., en parlent seulement comme de la grève du Nord-Ouest. On n'y trouve pas d'ossements humains parmi les galets. Les courants n'y portent pas plus de cadavres qu'ailleurs. Certains jours, la mer y est si douce et le soleil si beau que la méditation de la mort y semblerait une offense. Mais le peuple invisible des trépassés se presse dans cette baie et sur ses rivages. Dans les eaux de la baie, il y a des noyés de toutes sortes. Il y a les plus beaux marins du monde et les plus courageux, ceux que la Morgane a choisis pour époux. Mais le destin de la Morgane veut que son baiser tue ses amants et qu'elle n'étreigne jamais que des cadavres. Ils dérivent dans les courants et pas un seul poisson n'oserait les profaner. D'autres noyés chrétiens se sont livrés eux-mêmes à la Morgane païenne. Ceux-là vont errer jusqu'à la fin du monde, la marque de leur baptême au front. C'est en vain que les pêcheurs vivants qui les rencontrent voudront les ramener dans leur barque par pitié. Les damnés leur glisseront des mains. De la barque des morts, ils ne verront que la quille. Au bord de la baie des Trépassés, attendent aussi les âmes de ceux dont la mer a rejeté les cadavres. La plupart sont d'honnêtes marins, en paix avec Dieu et avec les hommes. À cause de cette innocence, ils ont eu assez de pouvoir sur les vagues pour que celles-ci les ramènent à la côte où ils seront ensevelis en terre bénite. Mais quelques-uns, coupables de fautes inexpiables, ont vu leur corps vomi par la mer elle-même qui n'a pas voulu en être souillée. De ceux-là non plus, la barque des morts ne voudra pas se charger. Depuis que le monde existe, la barque des morts se présente à la baie des Trépassés certaines nuits. Une voix puissante s'élève sur le bec du vent ou le bec du rat, appelant un pêcheur par son nom. L'homme ne s'étonne pas. Il sait que depuis toujours, ses ancêtres ont passé les morts et que pour cet office, ils étaient affranchis de toute redevance envers leur seigneur de la terre. Il descend vers la baie du Nord-Ouest. Une longue chaloupe y est à flot. Elle paraît vide et pourtant elle s'enfonce dans l'eau jusqu'au bordage comme si elle était chargée à couler bas. Dans une grande rumeur de supplication, le pêcheur se fraye un passage à travers les rangs pressés d'une foule invisible. Quand il a pris sa place au gouvernail, une voile se largue d'elle-même et la barque des morts s'éloigne de la grève. Derrière elle éclatent les sanglots des âmes qui ne sont pas du voyage. Le pêcheur la manœuvre à travers les brisants et la mène vers Saint. Dès qu'elle a touché l'île, il la sent qui s'allège et remonte sur l'eau à mesure que débarquent les invisibles passagers. Alors il peut remettre le cap sur la grande terre. Quand il est entré dans la baie vide et silencieuse, la barque n'est déjà plus qu'une ombre. Quand il a posé un pied sur le sable, elle a disparu. À qui demandera si la barque des morts aborde toujours à la baie des trépassés ? Aucune voix n'osera répondre. Aucun pêcheur du Cap Sizun n'a jamais avoué qu'il avait fait le passage. Celui qui est choisi pour cet office vit désormais en étranger parmi ses frères, en attendant qu'il devienne l'Ankou marin. Page 104. Jean qui parlait aux pierres. Il y a eu un temps où l'on n'aurait trouvé personne dans toute la baie d'Audierne pour élever un mur de galets autour d'un champ sans demander les conseils et le secours de celui qu'on appelait Jean des Pierres. Quand nous l'avons connu, c'était un vieil homme au visage torturé, le seul être vivant capable de comprendre les paroles qui sortent des galets de mer quand le vent y passe. Ce pouvoir lui était venu dans sa 12e année. Par un jour de grand vent, il gardait ses deux vaches maigres sur la falaise. Sa mère lui avait bien recommandé de tenir l'œil sur l'une des bêtes, la rouge, à l'humeur assez folle pour le présent. D'habitude, l'enfant s'étendait à son aise dans une de ces fosses à brûler le goémon qui ressemblent à de longs cercueils garnis de pierres plates. Mais ce jour-là, il n'avait pas envie de trop laisser vaguer la rouge. Elle aurait tôt fait de filer la sournoise vers la palue de Plovan, P-L-O-V-A-N, où il y avait certaines herbes d'une saveur sans pareille. Une fois déjà, il avait couru toute une nuit pour la retrouver, au risque de se noyer dans les étangs. Il choisit de s'asseoir sur l'herbe, le dos appuyé contre le mur de pierres sèches et de galets qui serpentaient le long de la côte, à quelques pas du bord de la falaise. Le vent de mer ne cessait pas de forcir. Il sifflait sur tous les tons dans les 700 trous du mur. De petits galets libres commencèrent à taper des coups pressés. D'autres, plus sourds, se décalaient sourdement dans les rafales. Ceux de la crête, larges et plats, frottaient les uns sur les autres avant de glisser dans l'herbe. Un coquillage, pris dans les pierres, chantait clair et aigu comme un enfant de cœur. Et puis, tout le mur se mit à bruire en tempête. Jean ne regardait plus la rouge. Il avait fermé les yeux et il se trouvait bien de la grande rumeur de galets. La tête commençait à lui tourner quand tout d'un coup, il lui fut donné de les comprendre mot à mot pour le tourment de toute sa vie. Les pêcheurs s'étonnèrent de voir l'enfant aux aguets près des murs secs dès que le vent s'était levé. Il se ramassait contre les pierres et demeurait des heures sans bouger. D'autres fois, il courait d'un mur à l'autre avec des cris, des bonds, des rires éclatants. Mais plus souvent, il avait le front soucieux. De ses mains tremblantes, il tâtait les galets. Il collait son oreille, essayait de les faire bouger. Il leur parlait à voix basse quand il était seul avec eux. On le vit démolir des pans de murs et les remonter avec soin. Pendant les nuits d'hiver, il quittait son lit pour courir la falaise. Il n'avait de repos que lorsque le vent était tombé. Ses pauvres parents le laissaient faire et jamais il ne fut contrarié par personne, car les innocents sont entre les mains de Dieu. On l'appelait Jean des Pierres. Passèrent les années. Un pan après l'autre, le long mur qui bordait le sentier de la falaise avait été refait par Jean. Aucun galet maintenant ne glissait plus sur sa crête. Rien ne branlait dans les rangées où tout avait sa juste place. Quand se levait le vent de la mer, on entendait chanter le mur d'une seule voix, sans faille, mieux que les hommes à la grand-messe, beaucoup mieux. Les pêcheurs s'arrêtaient de ramander leurs filets, pris entre l'inquiétude et le contentement. Ils devenaient tout pensifs en regardant Jean des pierres, et souvent, assis à l'ombre de leur barque, pendant que l'un d'eux surveillait la mer, ils parlaient longuement de lui avec des mots de respect et de souci. Et voilà qu'une fois, Jean des pierres, qui était devenu un homme, vint s'asseoir au milieu d'eux. Ils l'écoutèrent si fort qu'ils en oubliaient de rouler leur chic. Quand les femmes vinrent les appeler pour la soupe, elles firent chanter des litanies qu'on ne trouve dans aucun livre de messe. Mais jamais un seul des hommes ne fut capable de répéter ce qu'il avait entendu de Jean des pierres. Ils dirent seulement qu'ils connaissaient la mer, les vents et le rivage mieux que nulle créature vivante, parce que les galets lui avaient révélé des choses qu'on ne pouvait pas répéter après lui. Certaines de ces choses étaient si terribles qu'ils en perdirent le sommeil pendant des nuits et des nuits. Depuis ce jour-là, celui qui voulait lever un mur sur la côte allait trouver Jean des pierres. Jean, si vous êtes d'accord, j'aimerais protéger mon champ sur la falaise. Vous savez où il est ? Oui, il faudra prendre les galets en face de la roche longue. Ceux-là sont prêts à entrer dans un mur. Ils me l'ont demandé souvent. Alors nous pourrions commencer mardi, j'aurai les hommes qu'il faut. Non, il n'y aura pas de vent mardi. C'est le vent qui fait chanter les galets. Et c'est le chant des galets qui enseigne la manière de bâtir un mur. On ne peut rien faire sans le vent. Attendons jusqu'à jeudi. Mais comment pouvez-vous savoir si le vent soufflera jeudi? Je le connais beaucoup mieux que mon propre corps. Il se lèvera de bonne heure et ne tombera que dimanche, au début des vers. Nous aurons tout notre temps. Et le jeudi, sans faute, le vent de mer sifflait dans l'herbe rase, pendant que Jean des pierres traçait le sillon du mur avec un croc à goémon. Il sifflait dans les galets que les hommes plaçaient les uns sur les autres, avec les gestes attentifs d'une mère qui dépose un nouveau-né au berceau. Attendez donc, doucement. Ce galet n'est pas à sa place. Il faut l'enlever tout de suite. Je l'entends se plaindre sous le vent. Il a mal, oui, il a mal. Et quand un galet ne se trouve pas bien dans un mur, le mur ne se trouve pas bien debout. Enlevez-le, je vous prie. Bien, bien. Est-ce que celui-ci pourrait aller mieux, Jean des pierres ? Beaucoup mieux. Entendez-vous comme il ronronne joliment ? Mais il me semble qu'on gémit encore de ce côté. Oui, ma foi, je ne suis pas étonné. Vous avez mis là un galet rouge pour boucher un trou qui doit rester ouvert. Et le pauvre mur s'étranglait. Écoutez comme il respire bien maintenant. C'était vrai. Quand le mur était fini, les voix de ces pierres changeaient avec le vent qui passait de galerne en suroît, mais toujours elles s'accordaient ensemble et aucune plainte n'y résonnait jamais. Sur toute la baie d'Audierne, les longs murs de galets n'arrêtaient pas de chanter leur contentement. Cependant, Jean des pierres était entré dans sa vieillesse. D'année en année, ses yeux devenaient plus hagards. Son visage reflétait un tourment caché. Bâtir un mur était pour lui un martyre. Il n'en finissait pas de soupeser les galets, de les changer de place et d'en approcher sa tête. Lui qui les entassait naguère plus haut que ses yeux, il tremblait de les faire monter jusqu'à sa poitrine. Et puis vint le jour où la grande rumeur du vent dans les murs, si large et si pleine autrefois, se mit à s'érailler un peu, un tout petit peu, comme à regret. Les gens de la côte ne s'en aperçurent pas tout de suite. Mais Jean savait déjà que lui devenait sourd. Son oreille n'était pas plus épaisse pour entendre les hommes, non. Mais il ne démêlait plus très bien le langage des pierres. C'était le don qui s'en allait. Le dernier mur qu'il a levé, c'est celui de Jacques Perros. J-A-K-E-Z. Plus loin, P-E-2-R-O-S. Vous ne pouvez plus le voir aujourd'hui et vous saurez pourquoi. Jean avait d'abord dit non parce que l'autre voulait faire passer son mur en face d'une saignée de la falaise, là où il y a une fontaine d'eau douce. Le vent n'est pas franc dans cet endroit. Et puis tout de même, il avait fini par dire oui. Depuis longtemps, il n'osait plus toucher les galets. C'était l'occasion de savoir si le don l'avait définitivement quitté ou s'il était revenu. Le mur s'éleva lentement. Jean avait ordonné qu'on le laissât tout seul. Il s'était bâti une cabane près de la fontaine et il y passait ses nuits aux aguets. Pendant 2 mois, tremblant de fièvre, il ne cessa de faire et défaire. Enfin, quand les galets lui arrivèrent aux épaules, il les couvrit de pierres plates et rentra chez lui. Cette nuit-là, le vent de mer se mit à souffler avec une force terrible. On aurait dit que des orgues immenses, tout le long de la côte, célébraient le jugement dernier. Jean Despierre suait d'angoisse dans son lit à cause de son mur. Il lui semblait entendre un galet, un seul, qui pleurait comme un être vivant. Il descendit de son lit clos, entra dans ses sabots de bois, courut à la côte. Le lendemain, quand Jacques Perrose alla voir son mur, il le trouva écroulé en face de la fontaine d'eau douce. Au milieu du tas de cailloux polis, dont aucun n'avait voulu le toucher, souriait Jean Despierre. Il tenait un gros galet dans son giron, sans doute celui qui pleurait dans le vent et qu'il avait voulu remettre à sa juste place. Pendant tout le temps qu'il vécut encore, il ne cessa d'arpenter la falaise avec ce galet qu'il dorlotait comme un enfant blessé. Sa pauvre tête s'était perdue à cause d'une pierre qui souffrait dans un mur. Vent de Galerne ou de Suroy, les murs de Jean Despierre chantent toujours sur la baie d'Audierne. Alan Argo, A-L-A-N, plus loin A-R, plus loin G-O-W, et Yuen Moros, Y-O-U-E-2-N, M-O-R-O-S, m'ont conté son histoire en mangeant la galette froide près du moulin de Pénor il y a plus de 30 ans. Je n'ai pas été capable de la compter comme eux, mais j'ai tâché de faire que leur vérité fût aussi la mienne. Quand on ne dit pas vrai, alors on ment, ce n'est pas 100 fois le jour, mais souvent. Page 111, Chanig, Anne Ormond. C-H-A-N-I-G, plus loin A-N, plus loin O-R-M-A-N-D. Il y a eu un temps où le rat de Saint était peuplé de navires si nombreux qu'il fallait attendre son tour pour passer entre l'île et le promontoire du Cap. Les flottilles de pêcheurs de morue voyaient passer en convoi les hauts bords des navires de commerce. Les vaisseaux de guerre battant tout pavillon exerçaient leurs équipages dans le détroit redoutable et fameux. Les plus hardis corsaires, toute voile dehors, louvoyait si près de la côte que les huniers claquaient au ras de l'herbe courte. On parle même de gabier qui aurait sauté du gréement à terre et choisi la liberté sans se fouler la moindre cheville ni lâcher le moindre juron. Mais il arrivait à certains navires de faire escale au port de Bestré, B-E-S-T-R-E accent aigu. C'est une petite baie au sud de la pointe du Raz, et ça n'est pas un port. Par nécessité quelquefois, le plus souvent dans une intention de maraude. Sur le cap éventé paissaient des milliers de moutons roux sous la garde des filles de Lescoff, L-E-S-C-O-2-F. C'est le village le plus près de la pointe du Raz et du port de Bestré. Il n'était pas grand, mais de chair si succulente qu'on en rêvait encore il y a 20 ans sur le marché de Pont-Croix, P-O-N-T, trait d'union C-R-O-I-X. Les aventuriers de mer étaient tentés de faire main basse sur ces animaux pour en améliorer leur triste quittance. Avant de vouer ces gens aux tourments de l'enfer, il faudrait avoir navigué sur un voilier de ce temps-là. On comprendrait, du même coup, pourquoi ils emmenaient parfois la bergère avec ses moutons. Les filles de l'Escoff filaient leurs quenouilles en surveillant les troupeaux. Quand un navire passait à portée de voix, elles le hélaient par jeu. « petit navire, viens à la côte, j'irai matelot à ton bord. Matelot, non, mais capitaine !» Et de rire, les imprudentes sirènes au danger de tous les Ulysses, laboureurs de vagues. Elles se croyaient en sûreté sur le haut promontoire, ce château de récif entre la mer droite et la mer gauche. Mais un beau jour, Chani Ganormand se fit enlever par des Hollandais qui la prirent au mot. Son histoire fit le sujet d'une belle Gwerz, G-W-E-R-Z, qui servait à danser dans les chapelles du rat pour la gloire de Dieu avant que le père Maunoir, M-A-U-N-O-I-R, ne vint y mettre bon ordre. Ensuite, elle devint le chant des veillées de l'Escoff, celui que chacune et chacun devait savoir avant même le credo qui est à tous les chrétiens. Chani Ganormand appartient seulement au cap. Elle était sur l'étrave du rat avec Marie Bourdon, son amie. Les filles de Bonlieu vont deux par deux dès que leurs mères sont hors de vue. Et voilà qu'un navire aborde à Bestré. Des pêcheurs de Camaret qui viennent pour la morue ? Camaret, C-A-M-A-R-E-T. Mais ils ont l'épée aux côtés. Des gentilshommes en voyage ? Mais ils sont vêtus de rouge et de noir. Des capitaines embarqués pour le tour du monde. Voilà ce qu'ils sont. Marie Bourdon prend la fuite aussitôt. Mais Chani Ganormand, au lieu de la suivre, ne peut se retenir de lancer l'appel naïf des bergères. Petit navire ! À peine a-t-elle tourné le dos que les marins sont sur ses traces. Elle passe le vieux cairn, le champ de la pente. Va-t-elle atteindre la mare au blaireau ? Hélas, la courroie de sa galoche a cassé au revers des fosses. Les mains des païens s'abattent sur elle. Chani Ganormand descend à Bestré en pleurant. Prisonnière des Hollandais. Les gars de l'Escoff ne sont pas là pour écorcher les ravisseurs. Sa mère l'attendra en vain devant la bouillie au miel. En vain, elle demande qu'on la débarque au Vorlen, V-O-R-L-E-2-N, pour dire adieu. Elle doit choisir un des païens pour époux. Elle choisit le capitaine, ne pouvant mieux faire. Arrivée en Hollande, pleurant encore, elle troque sa jupe des toupes de lin contre une robe d'incarnat. Pleurant toujours, elle boit des vins doux au lieu de son eau de prunelle. Elle finit par danser sur le pavé de la Hollande, vêtue de calamante écarlate, brodée de soie jusqu'à terre. Or, elle revint à l'Escoff avec son mari. Elle revint chercher sa mère pour lui donner une vie meilleure. Mais sa mère ne se consolait pas d'avoir un gendre païen. Elle voulait sa tombe en terre bénite, à Plogoff. Chani Ganormand dit adieu à ses sœurs sur le mur du cimetière et reprit la mer en laissant son livre de messe et son chapelet qui ne lui servait à rien en Hollande. Elle gardait son alliance d'or. Cette Gwerz, la petite Lysène Jadée de Kériolet en Cléden, et Marie-Joseph Pancel, veuve de Jean-Guillaume Maréchal de l'Escoff, l'ont chanté en breton à Monsieur Le Carguet, L-E, plus loin C-A-R-G-U-E-T, à la fin du siècle dernier. Et Monsieur Le Carguet, qui était dans les Écritures, la coucha bellement sur le papier, sans en laisser perdre un seul mot. Il voulut même savoir ce que devint Marie Bourdon. On lui dit que la jeune fille, en courant à tête perdue pour échapper aux Hollandais, tomba sur son aiguille de bois à tricoter la laine. L'aiguille lui perça la joue, le sang coula d'abondance, elle s'évanouit. Alors les matelots la laissèrent, bien qu'elle fût la plus belle fille de la paroisse. On peut être païen et avoir des entrailles. Page 115, la femme au croc, c'est Rousset. Au temps où le rat n'était pas encore éclairé par les tours de feu, c'était un immense cimetière de navires. Les gens du pays lui donnaient eux-mêmes ce nom-là. Sur plus de 6 lieues, à partir de la fine pointe, par l'île de Saint et la roche extrême d'Armen, A-R plus loin, M-E-N, les écueils découverts et les basses tendent un filet sournois où les courants et les tempêtes rabattaient les plus habiles marins de la terre. Ce filet toujours prêt et qui n'avait pas besoin de ramandage a souvent apporté aux Iliens et aux Capistes des aubaines de mer dont les misérables avaient bien besoin pour s'empêcher de mourir. Ils ne prenaient pas de poissons, mais ils broyaient les barques et les vaisseaux. Les débris des naufrages et les cargaisons arrivaient à la côte avec les corps morts. Sur la côte, il y avait presque autant de pères-dieux à l'affût que d'âmes incarnées, presque autant de crocs à goémons brandis que de paires de mains. On entrait dans les vagues pour écumer tout ce qui flottait, on fouillait les grèves pas à pas, on peignait soigneusement les goémons pour découvrir les menus trésors, on déployait toutes les forces pour ces récoltes sans semailles dont le temps n'était pas connu mais qui étaient plus drues en hiver et mûrissaient au vent plus qu'au soleil. Les épaves étaient un droit pour ceux du rivage. Ils défendaient farouchement ce droit sans vouloir rien entendre. Acharnés à vivre sur un rocher infertile et nu, martyrisés par les vents sauvages, soumis à tous les dénuements, le moindre cadeau de la mer leur était bonne fortune. Une planche, une corde, un sac, un baril, n'importe quoi. Tant mieux si la planche était une proue entière, la corde amarrée à un canot en dérive, le sac plein de blé ou de coton, le baril garni de vin ou de rhum. Et quoi ? Ils risquaient bien leur vie pour amener tout cela au sec. Et le seigneur duc savait bien en réclamer un sixième. Et certains commis aux écritures du roi prélevaient au passage plus d'une dîme sans avoir seulement mouillé leurs chaussures à boucles. Les voleurs, ils auraient dû venir vivre sur le cap toute l'année pour apprendre à faire les lois. Les femmes étaient les premières au pillage, dit-on. Cela vous étonne ? Elles avaient les enfants à tenir en vie. Elles perdaient souvent leurs hommes dans le rat qui avalait les barques des capistes, aussi bien que les navires étrangers. On devient louve à vivre de vent. Elles étaient plus habiles que les hommes à la cueillette, plus patientes aussi, et plus rusées. Elles savaient découvrir les plus petits objets, qui sont aussi les plus précieux. Quand elles descendaient à Pont-Croix après les tempêtes, les bourgeois du commerce faisaient quelquefois de bonnes affaires avec ce qui sortait du pli de leur robe, et elles repartaient avec de la bonne toile sur l'épaule. On les appelait les Maries du Cap, du nom de la sirène elle-même, mais seulement derrière leur dos et quand le dos était déjà loin. Il y en avait une autrefois qui travaillait merveilleusement du croc sur la côte de Cléden et à la pointe du vent. Dès que la mer était grosse et les vents hargneux, elle prenait le guet avec son croc en main. Son œil aigu repérait les épaves à une lieue. Quand un bateau se brisait sur une roche du rat, c'était l'affaire. Tout lui était butin. On dit même que sans égard pour le seigneur Saint-Thé, T-H-E-Y, dont la chapelle protège le vent, elle dépouillait les cadavres échoués à la côte jusqu'à les laisser nus dans les goémons. Son mari était un bonhomme et n'aimait pas ses façons. Le droit d'épave, soit, mais il faut de la révérence pour les morts. Un prêche n'eût servi à rien. Il fallait frapper l'esprit de la femme pour l'empêcher désormais de profaner les trépassés. Par une nuit de tempête, quand elle fut sortie avec son croc, il prit un raccourci par la falaise et alla s'étendre dans le goémon et l'écume sur une grève où elle avait ses habitudes. La femme arriva peu après, tâtant soigneusement du croc devant elle. Quand le croc toucha le corps, elle se mit à genoux pour le dépouiller. À l'instant même, le mari se retourna en poussant un hurlement terrible. La pieuse prit la fuite sans demander son reste. Quand elle rentra chez elle, sans croc et le visage couleur de sable, le mari l'attendait paisiblement. « Qu'avez-vous trouvé cette nuit, femme ?»«
J'ai trouvé un mort qui est devenu vif sous mon croc, un fantôme peut-être. On ne verra plus mes pieds sur la grève. » »«
Ainsi soit-il. Depuis ce temps-là, qui est déjà très loin, les crocs n'ont plus servi que pour le goémon. Quand le chaudron du rat se met à bouillir sous la tempête, il n'y a plus d'autre affût que celui des tours de feu et des marins qui s'apprêtent à la rescousse des naufragés. Le droit d'épave s'est effacé devant le devoir de sauvetage. Les gens du Cap et de l'île n'y ont jamais failli.
Fin de la deuxième piste de la deuxième cassette, page 118, L'esprit du rivage, Légende de la mer, par Pierre Jacques Elias.